France Inter.
Je suis persuadée que la danse est un outil pour se réapproprier son corps, reprendre confiance en soi et apprendre à vivre avec le collectif. Quand on apprend à danser, une des premières choses que l'on fait, c'est faire la ronde, c'est prendre les mains des gens qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est appréhender son espace, appréhender l'espace de l'autre, appréhender son corps et le corps de l'autre.
Enfant, ses parents l'appelaient Zébulon parce qu'il courait partout et avait besoin de se dépenser. À 9 ans, il rencontre la danse et ne la quitte pas. Il est aujourd'hui l'un des danseurs étoiles de l'Opéra de Paris, nouvelle génération, celle qui danse aussi bien que ses aînés, mais qui souhaite emmener la danse ailleurs qu'au Palais Garnier pour la rendre accessible à tous. Bonjour Hugo Marchand.
Bonjour Vincent.
Est-ce que vous avez dansé ce matin ?
Ah non, ce matin, j'ai pas du tout dansé. Non.
Vous avez dormi ?
C'était mon jour de repos, je me suis reposé. Il fait très beau, j'ai pris le soleil.
Vous avez marché dans Paris ?
J'ai marché, ouais, du 11e arrondissement jusqu'à la maison de la radio.
Petite foulée ?
Ah, très petite foulée, ouais.
Combien de jours vous pouvez vous autoriser à ne pas danser ?
2 jours, 3 jours maximum. Après, ça commence à être plus compliqué, surtout si j'ai des spectacles et que j'ai des échéances importantes, si je veux pouvoir donner le meilleur. Là j'ai spectacle demain, voilà, 2 jours, 2 jours samedi, dimanche, c'était bien.
Hugo Marchand sur la scène de l'opéra, aussi bien chez Nureyev que chez Béjart ou Jiri Kilian, Balanchine, Forsyth. Vous dansez en ce moment, Hugo, à Garnier, appartement de Matzek, et vous êtes venu accompagné de Charlotte Montpezat. Bonjour.
Bonjour Vincent.
Psychanalyste, coach, vous avez travaillé à Canal+. Est-ce que vous pratiquez la danse ?
Absolument pas.
Ça, vous le regrettez ?
Oui, beaucoup.
Bon, vous nous raconterez le pourquoi de la présence de Charlotte Montpezat, ouais. et vous, madame, votre itinéraire, s'il vous plaît. Il est 17h06, c'est votre magazine culturel sur Inter.
France Inter, le grand atelier, Vincent Josse.
Il est impressionnant déjà physiquement, Hugo Marchand, parce qu'il est beaucoup plus grand que nous tous. Vous êtes d'accord, Charlotte Montpezat ?
Absolument.
Vous êtes déployé là comme un aigle, en plus vous êtes tout en noir. 1m92, on vous fait une remarque sur votre taille depuis que vous êtes petit, depuis que vous êtes ado ?
Depuis que je suis enfant, oui, mais moins maintenant, c'est marrant. Au début, quand j'étais jeune adulte, on m'a beaucoup parlé, oui, vous avez un physique atypique, vous êtes très grand, etc. Maintenant, on m'en parle beaucoup moins, et tant mieux. J'aime bien que ça passe un peu plus inaperçu.
Oui,
ça devient presque normal, en fait, dans le milieu de la danse.
Je suis le seul à l'avoir remarqué, signalé. Est-ce que vous avez eu peur de ce corps qui n'en finissait pas de grandir quand vous étiez adolescent à l'opéra, à l'école de danse ?
On a une perception de son propre corps qui n'est pas la même que quand les gens nous perçoivent. Donc, moi, j'ai jamais senti que j'étais trop grand. Moi, je suis dans moi, donc j'ai pas l'impression d'être plus haut que les autres ou plus lourd ou plus large parce que je ne connais que ça. Donc, je suis bien avec ce que je suis.
Oui, mais vous étiez plus grand que les autres. D'ailleurs, vous avez sauté une classe.
Alors, j'ai pas sauté une classe parce que j'étais trop grand. J'ai sauté une classe parce que j'avais l'âge aussi pour pouvoir sauter cette classe.
Mais il y avait aussi la taille.
Il y avait aussi la taille, mais un développement physique, on va dire. Oui, en fait, ce qui est difficile, c'est que quand on est à l'âge de l'adolescence, on a envie de ressembler à tout le monde, on a envie de faire partie du collectif et que personne ne nous repère. Et en fait, on se rend compte que toutes ces singularités de la jeunesse font de nous des adultes, j'imagine, un peu plus riches. Et ça crée de la diversité, en fait, c'est bien. Mais à l'adolescence, c'est difficile à vivre, ouais.
Est-ce que vous avez mal quelque part aujourd'hui ?
Oui.
Où ?
Moi, je ne sais pas si c'est intéressant de le dire.
Si. Moi, ça m'intéresse de savoir qu'on vit avec un corps douloureux, même quand on est étoile, et peut-être surtout quand on est danseur étoile.
On vit avec un corps douloureux, ouais.
Est-ce que c'est la cheville ? Est-ce que c'est...
J'ai passé une semaine difficile, en plus, au niveau du travail, avec beaucoup de spectacles, et puis pas mal de répétitions à gérer. Donc, mon corps a été très douloureux cette semaine, et j'ai passé mon week-end avec des médicaments pour avoir moins mal.
Ah oui, quand même ?
Ouais. C'est comme ça. Ça fait partie du métier. C'est la partie la plus dure de mon métier. Aujourd'hui, surtout à 31 ans, je suis jeune. Malgré tout, j'ai plus 20 ans où le corps est très très élastique et peut se permettre des charges de travail vraiment fortes. Aujourd'hui, je dois apprendre à faire moins. Et c'est un sujet qui est très compliqué pour moi, puisque j'ai un désir boulimique de la vie et de la danse. et que ça peut plus fonctionner avec ce que mon corps peut encaisser. Et donc, il y a toujours quelque chose en contradiction entre le désir projeté, ce que j'ai envie de faire, ce que je pense pouvoir faire, et la réalité de réaliser ces actions et ces projets qui, en fait, me rendent moins heureux que ce que je pense parce que j'en fais trop.
Est-ce que c'est un garçon à psychanalyser, docteur Charlotte Mompesa? Est-ce que vous comprenez sa problématique et est-ce que vous pouvez l'aider?
Non, moi, c'est pas du tout à moi de l'aider puisque nous sommes amis et donc on
peut. Il peut demander des conseils. Il peut vous demander des conseils parfois.
Un psychanalyste n'est pas là pour donner des conseils.
Non, mais ouais. comme vous êtes.
Mais en revanche, en ami, oui,
Vous êtes coach aussi, alors vous pouvez être coach.
Oui, mais pas sportif. et c'est vrai qu'on parle peu de danse. D'abord, c'est pas du tout mon rayon. Mais en revanche, il est certain que cette tension, justement, qui t'habite et qui est là, qui est intrinsèque, elle est aussi extrêmement féconde, bien sûr.
Oui. C'est sûr que ces moments où on est un peu dans la gadoue sont des moments où on réfléchit et des moments où on finit par créer aussi. Mmh. En fait, aujourd'hui, ce qui me manque un tout petit peu, c'est du temps pour du rien et donc avoir l'espace de créer. En fait, c'est ça qui est un peu particulier, c'est-à-dire qu'on est dans un rythme de travail très intense, voulu. Mmh. Je le veux, ce rythme-là. Aujourd'hui, je travaille pour une institution qui est l'Opéra de Paris, qui est une entreprise et une institution culturelle absolument magnifique, que je défends, que j'adore, qui m'a fait rêver, qui me fait encore rêver. Mais pour pouvoir être encore plus heureux de ça, de cette danse, j'ai besoin de faire des projets à l'extérieur. Et donc d'avoir ces deux emplois du temps, en fait, et à l'opéra et les projets en dehors, c'est très challengeant, en fait, dans une vie d'un trentenaire, même si j'ai beaucoup, beaucoup d'énergie. Zébulon, fatigue de temps en temps.
Oui, mais vous l'êtes toujours.
Ouais.
Hein, j'ai l'impression,
ouais,
d'après ce que vous dites.
Ouais.
Alors, j'ai en face de moi ce garçon qui danse brillamment, qui est danseur étoile, qui offre, comme tous les danseurs, son corps au public d'une certaine manière, après l'avoir offert au chorégraphe. Vous parlez de votre corps comme d'une page blanche, ouais, sur laquelle le ou la chorégraphe sont autorisés à dessiner, à écrire ce qu'ils veulent. On vous voit travailler sur scène. Enfin, on voit vos muscles travailler. Vous êtes non pas nu, mais caché par un collant. Est-ce que c'est difficile au départ d'accepter d'être regardé comme ça ?
On ne devient pas danseur si on a du mal à être regardé par les autres. Je pense qu'on devient danseur parce qu'on aime être regardé par les autres aussi. On aime exister de cette manière. Donc, ce n'est pas une problématique. La problématique, elle est plus de se regarder soi toute la journée, puisqu'on travaille dans un studio avec des miroirs et qu'on est en train d'analyser et d'observer le mouvement, l'esthétique, le corps. Et ça, c'est plus difficile.
Il y a des jours où vous vous trouvez très laid.
Il y a des jours où je me trouve très laid, mais comme tout le monde, je veux dire, voilà, il y a des jours où on se trouve bien, puis il y a des jours où on se trouve moins bien. Mais en fait, nous, dans notre particularité d'être danseur, on est face à ce miroir toute la journée, et c'est un outil très intéressant, et puis c'est un outil dans lequel on se perd aussi. Donc, il faut l'appréhender. Et d'ailleurs, en mûrissant, on finit par s'en détacher complètement. C'est assez curieux. Il est là, on se regarde, et puis on se regarde avec des yeux tout à fait différents. En fait, on a une autre perception.
Mais vous êtes censé regarder votre travail, vos mouvements, la demande du chorégraphe et le corps, pour voir si ce corps répond à ce qu'on lui demande.
Oui, mais on finit par apprendre que la sensation et que l'intention sont souvent bien plus importants et intéressants que l'image que l'on perçoit de nous-mêmes dans un miroir.
D'accord, donc on oublie un peu cette image.
On apprend à s'en détacher.
Ça, c'est la maturité. On va vous retrouver tous les deux, Hugo Marchand, danseur étoile de l'Opéra de Paris, et la psychanalyste et coach Charlotte Mompesa, après une chanson de M accompagnée de Fatoumata Diawara et Toumani Diabaté.
Qui s'entête quand j'ai l'âme au Mali, c'est comme un mal de tête, une mélancolie qui me dit je suis mal. Je l'aime au Mali, et le cœur ébloui dans l'infini
Je suis Mali, c'était M. Est-ce que vous écoutez beaucoup de musique avant d'entrer sur le plateau de Bastille ou de Garnier? Hugo Marchand, je rappelle que vous êtes danseur étoile.
Juste avant de rentrer, presque jamais. Moi, j'écoute de la musique toute la journée parce que j'aime ça, mais aussi parce que c'est dans mon travail d'écouter de la musique et donc de travailler avec la musique. Et donc, le silence est une musique qui me va très bien avant les spectacles.
Vous vous échauffez?
En silence.
En silence?
Ouais, avant un spectacle, toujours en silence.
Faut pas qu'on vienne vous parler?
Ah si, on peut venir me parler, mais il n'y aura pas de musique. J'aime bien être sans la musique.
Dans le livre que moi j'aime beaucoup, qui est apparu chez Artaud il y a quelques années, qui s'appelle Hugo Marchand, en collaboration avec Caroline de Bodina, Danser,
oui.
ER, vous dites qu'il ne faut surtout pas vous parler après un ballet, par exemple, parce qu'il y a une demi-heure, une heure, deux heures, où il faut redescendre, et que de toute façon, vous n'entendez rien de ce qu'on vous dit. Vous pouvez être aimable avec les gens qui viennent vous féliciter, mais vous n'êtes pas là.
Alors, ce qui est intéressant avec les livres, c'est qu'on dit, on écrit des choses, et puis le temps passe, et on change.
Il y a trois ans seulement.
C'est très rassurant de changer, d'ailleurs, j'aime beaucoup.
Ah, on peut vous parler maintenant, après un ballet?
Oui, alors il y a toujours une difficulté, parce qu'en fait, ce qu'on vit quand on danse, c'est pas quelque chose qu'on peut partager avec des gens qui ne dansent pas. Et donc, on est toujours frustré, parce qu'on a envie d'être dans une perception différente, de se rassurer, de fédérer avec les gens, souvent la famille, les amis. Et en fait, les gens nous parlent de choses qui nous dépassent. Et puis souvent, ce qu'on a voulu donner, les gens ne l'ont pas attrapé. Et puis certaines fois, les gens attrapent des choses qu'on n'a jamais données.
Vous racontez qu'à une époque, vous demandiez à vos parents, est-ce que vous avez vu ça? Et à ce moment-là, est-ce que vous avez compris ça? Et qu'ils n'entendaient pas ce que vous disiez.
Et qu'en fait, ils n'avaient rien compris.
Ouais.
Et puis qu'en fait, ils avaient compris autre chose. Et c'est là où je trouvais très intéressant. Et on en parle avec Charlotte, c'est cette idée que les choses nous échappent. Que les choses nous échappent et qu'il y a quelque chose qui vient parler au-delà de nous. Et puis qui vient parler aux gens, et qui finalement rend la danse aussi très abstraite de temps en temps. Et j'aime beaucoup.
Ben oui.
C'est un peu l'accident.
Je me tourne vers Charlotte Montpezin.
Il me semble que c'est le propre de la création, c'est-à-dire que, comme tous les artistes, vous êtes traversé par quelque chose qui vous dépasse, en fait, et il faut accepter de donner quelque chose, en effet, qui t'échappe. Voilà. Mais on peut faire le lien aussi avec... j'ai toujours été frappée par ce lien avec la maternité, c'est-à-dire que, voilà, on construit quelque chose qui nous échappe, hein, on ne sait pas très bien, est-ce qu'on va mettre des yeux bleus, on n'en sait rien, hein, pareil. Là, pareil, tu travailles tes pas, etc. Et ensuite, on lâche quelque chose, on libère quelque chose qui nous échappe, qui ne nous appartient plus. Et le monde le reçoit d'une certaine façon, et on n'a pas d'impact là-dessus, finalement.
Alors, est-ce que vous accouchez quelque chose quand vous êtes face à nous et en train d'interpréter l'œuvre d'un créateur?
Oui, forcément. On essaye d'accoucher de quelque chose.
Mm-hmm. C'est une image qui vous va bien?
Complètement.
Oui.
On n'accouche jamais de ce qu'on pense accoucher. Et ça, ça rejoint ce que tu dis, Charlotte. J'aime penser que les gens ne viennent pas forcément nous voir, nous, qu'ils viennent se voir, eux, à travers la danse, à travers le spectacle, à travers le théâtre, le cinéma. Moi, dès que je suis spectateur, en fait, les moments où je rentre le plus en empathie avec l'acteur ou l'artiste, c'est quand ça parle de ma propre vie, de mes propres souvenirs, de mes propres émotions. Et je crois qu'en fait, les gens viennent absolument se voir eux-mêmes. On est là pour être un miroir. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de penser le spectacle comme ça, parce que ça dépressurise complètement. Parce que si on pensait que les gens venaient nous voir, nous, en fait, on serait en train d'imploser, de stress tout le temps. Et finalement, on est là comme un oracle. Et j'en ai beaucoup parlé pour le Boléro. On est des passeurs.
Oui, vous avez dansé le Boléro de Ravel.
Oui,
de Ravel par Béjart.
Oui, exactement.
Hein, le Boléro que Georges Donne avait créé.
Que Georges Donne n'avait pas créé.
C'est pas Georges Donne.
C'est Dushka Sifnos, une danseuse de Maurice Béjart, magnifique. Il l'a créé pour elle, pour une femme. Ouais.
Et
aujourd'hui, on pense que c'est Georges Donne parce qu'il a été iconique dans ce solo, mais c'était pour une femme qu'il a été créé.
On pourrait l'écouter, Béjart, puisque vous avez dansé le Boléro. Écoutez-le parler du danseur et de son interprétation et de son incarnation. C'est en 1970.
En 15 ans de boulot, bon, il y a eu des périodes où j'ai dit, bon, la danse, j'en ai marre, les danseurs ci, les danseurs ça, et j'ai poussé une pointe vers le théâtre, j'ai mis en scène des comédiens, j'ai travaillé avec des chanteurs, j'ai essayé de faire un peu de cinéma, enfin, j'ai essayé d'autre chose. Et chaque fois, je me suis rendu compte que je ne pouvais m'exprimer qu'avec les danseurs. Ce sont, je crois, vraiment des êtres privilégiés, Et ce sont des êtres de notre époque, totalement. J'ai vu toutes les recherches de l'Actor Studio, j'ai travaillé un peu avec Grotowski, j'ai eu une grande amitié avec les gens du Living Theatre, enfin j'ai participé à certaines recherches purement théâtrales. Mais tout ça, les danseurs, les vrais, hein, l'ont en eux. Personnellement, je crois que ce sont vraiment les acteurs de notre époque.
Réaction d'Hugo Marchand, danseur étoile de l'Opéra de Paris, à ce propos d'un grand maître et d'un grand inventeur de la danse, en 1970, Maurice Béjart.
C'est difficile de réagir. Moi, j'ai pas l'expérience que Maurice Béjart a eue de travailler avec tous ses corps de métier, tous ses artistes. Je l'ai pas encore eu, en tout cas. Maurice Béjart, c'est quelqu'un qui avait, c'était un humaniste. C'était quelqu'un qui était d'une générosité absolument incroyable. C'était un génie chorégraphique. Il a laissé derrière lui des œuvres intemporelles et qui sont universelles. Et surtout, moi, ce que je trouve incroyable avec cet homme, c'est qu'il a su parler à des gens qui n'aimaient pas la danse, qui ne connaissaient pas la danse. Et aujourd'hui, en France, si on doit citer un nom d'un chorégraphe qui d'ailleurs n'est pas français, c'est Maurice Béjart. Et ça, c'est incroyable, en fait, de se dire que des gens qui ne connaissent pas la danse, voilà, il y a qui ? Il y a Patrick Dupont et puis il y a Maurice Béjart.
C'est vrai.
Et parce que c'est des gens qui ont su sortir et transcender l'art de la danse pour le rendre accessible à tous. Et moi, c'est un des sujets très importants pour moi aujourd'hui, c'est comment faire pour que la danse classique, ça devienne le football de demain. Dans le sens où les gens devraient se retrouver dans des stades de foot pour célébrer la danse, parce qu'en fait, c'est incroyable la danse. Et j'ai envie de faire en sorte que ça puisse... Je ne serai pas tout seul à faire ça, parce que je n'en ai pas la force, ni les compétences, mais à plusieurs, peut-être doucement, faire shifter un petit peu les choses.
Oui, mais vous êtes un certain nombre dans votre génération. Ouais. Vous avez, comme Germain Louvet, 31 ans.
Oui.
Et j'imagine que des danseuses étoiles aussi ont envie d'aller vers ça, de sortir, de changer d'espace, au fond, pour amener un nouveau public.
Oui, c'est ça. Moi, c'est tout le propos de l'association que j'ai créée il y a 3 ans, avec toute une équipe. Il y a beaucoup de gens qui m'aident et dont je suis très reconnaissant, notamment Alexandra Cardinal, la productrice avec laquelle je travaille.
Ancienne danseuse.
Et puis,
on va dire le nom de votre association.
Oui, c'est à l'association Hugo Marchand pour la danse.
Ouais. Et vous sortez la danse.
On amène la danse dans les territoires ruraux, ouais, et dans des lieux du patrimoine. L'idée, c'est vraiment de pouvoir partager avec des gens qui ne connaissent pas, qui ne s'intéressent pas ou qui pensent que ce n'est pas pour eux, que c'est trop cher. Et en fait, nous, on vend des places à 13 euros, c'est un tarif unique, pour découvrir la danse avec les danseurs étoiles de l'Opéra de Paris et dans la nature. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important.
Chambord, le château de Chambord.
On va à Chambord.
Saint-Michel, le Mont-Saint-Michel.
On va au Mont-Saint-Michel en septembre et on va au domaine de Fabrègues au mois de juin, dans le département du Var. L'idée de remettre la danse déjà dans le patrimoine, parce que le patrimoine, l'architecture, c'est des valeurs du temps long, comme le danseur. Puisqu'on ne devient pas danseur en quelques secondes, on devient danseur avec plusieurs années de travail.
Vous avez commencé à 9 ans au Conservatoire de Nantes.
C'est ça, donc ça demande du temps. Donc j'aime cette idée-là. Aujourd'hui, tout est tellement immédiat, tout va tellement vite. Aujourd'hui, on ouvre ChatGPT, on pose une question, on a la réponse en une seconde. Donc devenir danseur, ça prend du temps. Remettre cette valeur du temps long, c'est beau pour moi. Et remettre la valeur de la nature. Remettre la danse dans la nature, pour moi, c'est quelque chose qui a du sens, puisqu'on a commencé à danser dans la nature. Les hommes préhistoriques ont dansé autour du feu pour se connecter à l'autre, pour se connecter à une forme de spiritualité, pour se connecter à la terre. Et revenir à ces racines-là, ça m'émeut.
Oui, et puis quand il était content d'avoir bien chassé et d'avoir fait du feu, l'homme préhistorique dansait peut-être.
Oui. C'est ça. Je le rappelle très régulièrement, mais j'y pense beaucoup.
Il y a un homme préhistorique en vous.
Peut-être.
Hugo Marchand, je voudrais qu'on donne un peu la parole à Charlotte.
Bien sûr, Charlotte.
Alors, je voudrais savoir...
C'est incroyable, il faut qu'elle puisse s'exprimer aussi.
Comment vous avez rencontré Charlotte Montpezat, qui a été une salariée de Canal+.
Oui, absolument, pendant longtemps.
Et ensuite, une coach et psychanalyste. Racontez-nous cette amitié et le pourquoi de sa présence.
On s'est rencontrés dans la vie privée, en fait, absolument. Dans un dîner, etc. Et j'adore Charlotte. Puisqu'on a des discussions sur beaucoup de choses, mais presque pas souvent de danse. Mm-hmm. On parle de sujets artistiques, culturels, de société. Charlotte, mm-hmm. Tu voyages beaucoup, tu t'intéresses à beaucoup de choses. Et puis Charlotte habite à côté de chez mon kiné.
Où vous allez tous les jours.
Pas tous les jours, mais très régulièrement.
Mais
ce qui est amusant, oui, pardon, ce qui est amusant aussi, c'est que, en effet, je devais dîner avec un ami qui me dit « Oh, écoute, ça t'ennuie pas si un de mes amis vient se joindre à nous ?» Je dis oh, « Bien sûr, il n'y a aucun problème. » Et donc, j'arrive au restaurant et je vois ce garçon qui est assis, je pense que tu avais une casquette sur la tête, tu étais dans une écharpe, enfin bon, très bien. Et donc, je ne reconnais pas du tout. Un jeune homme. Et la discussion s'engage sans que je le reconnaisse. Et la discussion ne s'arrête plus, en fait. Et on est tombé en amitié, enfin, il me semble, à ce moment-là. Et sans que je sache, en fait, que tu étais danseur étoilé. Donc, c'est vrai que notre amitié, notre lien, il s'est fait en dehors de ça, en dehors de la
danse. Est-ce que vous pouvez parler, même si vous n'êtes pas la psy, d'Hugo Marchand, de sa psyché d'une certaine manière? Parce qu'il a une façon de travailler que peu de gens ont. Tous les autres artistes lyriques, entre autres, les musiciens, etc., admirent les danseurs. Parce qu'ils disent que ce sont ceux qui s'engagent le plus, et ceux depuis l'enfance, et qui ne peuvent pas jamais s'arrêter, alors que les chanteurs lyriques ont des moments de pause.
C'est totalement inimaginable, le travail d'un danseur.
Comment vous entendez ça?
Donc, il y a d'une part, en effet, l'amitié qui me lie à Hugo et qui n'a rien à voir avec la danse, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui est d'une intensité, d'une profondeur, d'une curiosité, d'une générosité. Bon, on va arrêter la liste, parce que là, il est en train de devenir de la couleur du studio, mais c'est-à-dire rouge vif. Mais au-delà de ça, en effet, le travail du danseur classique, c'est quelque chose d'inimaginable, en fait. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le travail sur le corps, qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer en termes de contraintes du corps, de travail, de souffrance, d'abnégation, de don de soi. Enfin bon, c'est phénoménal. Et un travail aussi sur son esprit, également. Et puis, il y a aussi tout ce travail sur l'ego.
Ouais.
Tu es tout le temps entouré, comme tu le disais, de miroirs. Tu es tout le temps confronté à ton image. C'est ton image que tu vas offrir.
À des spectateurs qui lui disent « vous êtes merveilleux ».
Exactement. Mmh. Donc, comment est-ce que tu gères ça aussi?
Qu'est-ce que vous répondez à ça, Hugo Marchand?
Le travail sur l'ego.
On parlait du miroir tout à l'heure.
Aujourd'hui, ce qui est difficile, après, c'est peut-être de mon âge, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui nous trouvent chouettes. Et puis, il y a aussi des gens qui nous trouvent moins chouettes et qui nous le disent. On ne veut pas croire qu'on nous lance que des fleurs tout le temps.
Ils viennent vous le dire?
On nous le dit par les réseaux sociaux, oui. Ce qui est difficile, c'est qu'on finit par attendre d'être défini par l'autre. Et ça, c'est un vrai problème. Parce qu'on ne devrait pas attendre de l'autre de dire qui on est. Et donc, il y a un vrai sujet de savoir où est-ce que je m'assois aujourd'hui, dans quelle chaise je suis assis, et qu'est-ce qu'elle vaut cette chaise. Voilà, c'est vraiment une réflexion. Qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je sais pas faire, comment je peux faire mieux, comment je peux me mettre moins la pression, et qui je suis véritablement, sans avoir besoin de l'autre pour me définir, parce qu'en fait, c'est ça qui se passe.
Alors, ces questions-là... Pardon de cette indiscrétion, mais ça peut être intéressant aussi. Est-ce que c'est grâce à un psychanalyste que vous trouvez des réponses en étant allongé comme ça sur un divan depuis, je ne sais pas, 2-3 ans ou plus?
Moi, je me suis toujours fait accompagner par des médecins ou des psychanalystes. Ouais. Depuis mon enfance, depuis que je suis un adolescent, depuis que quand j'ai eu 9-10 ans, j'ai pris conscience que j'allais mourir et que j'étais vivant. Et que depuis que j'ai pris conscience de ça, ma vie a basculé. J'ai pris conscience que j'étais là. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu un énorme dilemme qui ne sera jamais résolu, mais donc qui m'amène à être en réflexion constante et à avoir besoin d'aide pour réfléchir.
Donc, la psy vous fait un bien fou.
Moi, je suis très partisan d'être accompagné psychologiquement par quelqu'un.
Est-ce que vous dansez mieux, Hugo Marchand, depuis que vous faites une psychanalyse?
C'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas la danse. Est-ce que je suis un peu plus heureux depuis que je fais une psychanalyse? Sans doute un peu plus, ouais. En fait, je fais pas une psychanalyse pour mieux danser. Je fais une psychanalyse pour mieux vivre.
C'est une belle réponse. On va écouter une de vos chouchous, parce que, mesdames, messieurs, Hugo Marchand n'a pas que Charlotte Mompesa dans sa vie. Il a aussi Fanny Ardant, qu'il admire infiniment, et Juliette Armanet, si je ne m'abuse.
Ouais.
On l'écoute chanter?
Allez.
C'est l'épine, cette chanson de Juliette Armanet sur France Inter.
Ça m'a griffé comme une épine instantanée, divine. Ça m'a laissé une trace infime, presque effacée. Sur l'état de toi, et toi tu ne la vois même pas.
Grand atelier de Hugo Marchand, danseur étoile à l'Opéra de Paris, et c'était Juliette Armanet, l'épine sur France Inter.
Le grand atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Et pendant que Juliette chantait, eh bien, Hugo et Charlotte parlaient. Et notamment, Charlotte disait au danseur qui est avec nous en cette fin d'après-midi aujourd'hui, Lacan a dit le corps parlant.
On est des corps parlants. Oui, c'est ce qu'il disait. Et c'est vrai que c'est ce qui me venait à l'esprit quand Hugo parlait d'analyse et qu'il disait qu'on ne fait pas une analyse pour mieux danser. En tout cas, lui ne fait pas une analyse pour mieux danser, ce qui est certain. Mais qu'en même temps, évidemment, le travail analytique se voit dans le corps. Se voit dans le corps et donc se voit sur scène aussi. Voilà.
Il y a vraiment cette logique, en fait, de vase communicant entre ce qu'on comprend dans la vie et ce qu'on peut mettre dans les rôles. Et puis ce qu'on comprend dans les rôles et qu'on peut mettre dans sa vie. Il y a quelque chose qui est de l'ordre un peu de la progression constante, qui peut être névrotique, hein, parce que clairement, il y a cette espèce de logique de dépassement de soi constante aussi. Et puis on le disait avec Charlotte, il n'y a pas de fin à cette progression. Et quand on est perfectionniste, ça peut rendre un peu fou.
Non seulement il n'y a pas de fin, mais en plus, ton art est inscrit dans l'éphémère. C'est-à-dire que, alors qu'un romancier ou un peintre pourra écrire ou peindre parce qu'il veut justement survivre à la mort, finalement, hein, et être, qu'on se rappelle de lui après de nombreuses années après sa mort, ton art, à toi, s'inscrit dans l'éphémère. Une fois que tu as dansé ton ballet, la scène est vide.
Ouais.
Et ça doit être... Quand on se pose des questions sur la mort, sur la vie, ça doit être assez angoissant. Enfin, c'est une question que je me pose.
C'est à la fois magnifique parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que l'éphémère et à la fois plein de doutes parce que on sait qu'on l'a fait, mais il n'y a rien qui reste, hormis nos souvenirs et peut-être les souvenirs des gens.
Ah, c'est pas mal déjà les souvenirs.
Et donc, on se demande si on pourra le refaire. Et donc, chaque moment où on rentre sur scène... Moi, c'est des moments où je me demande si je vais y arriver encore.
Mais vous êtes...
Je l'ai fait beaucoup déjà.
Hugo Marchand, vous êtes un angoissé depuis que vous êtes enfant.
Oui, mais ça soigne, ça s'avance, ça progresse quand même.
Vous écrivez beaucoup dans Danser sur cette vague qui peut vous assaillir. Et d'ailleurs, là, je vous en parle et vous vous mordez les lèvres. Parce que cette vague d'angoisse, c'est ça la vague. Hein,
ouais.
Elle peut arriver n'importe quand alors que vous êtes prêt.
Alors, elle peut arriver n'importe quand. parce que aujourd'hui j'ai appris à la dompter. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on apprend, en fait, on est surpris par ses émotions, on est surpris par ses expériences, et puis une fois qu'elles ont été là, on les regarde en face, et puis on a des discussions avec elles.
Qu'est-ce que vous dites à vos crises d'angoisse ?
Que le printemps va revenir.
Vous lui parlez gentiment ?
Ouais.
Que tout passe. Charlotte Montpezat, est-ce que ce sont des conseils quand vous êtes coach que vous pouvez donner ?
Absolument pas, absolument pas. Mais ce que je trouve admirable, c'est qu'il ait trouvé ses propres ressources. Voilà, c'est ça. Et qu'il arrive à dompter et à...
Vous poussez vos patients ou clients, je ne sais pas comment vous les appelez, vers ça, vers un dialogue avec sa peur, par exemple ?
Alors, en tant que psychanalyste, je vais les aider à trouver leur propre chemin, bien entendu.
Oui, et leur réponse, oui.
Oui, oui. Le travail de coaching, où en effet, j'ai des clients, là, c'est plutôt pour des chefs d'entreprise, etc. Donc, bon, on ne parle pas non plus forcément de ces sujets-là. Mais en analyse, oui, on va amener les patients à trouver leurs propres ressources et leur propre façon d'affronter justement ces monstres.
Est-ce que les arts vous aident dans votre fonction d'analyste ?
L'art en tout cas a toujours été extrêmement présent dans ma vie, donc oui, il m'aide dans ma fonction d'analyste, mais il m'aide dans ma vie en général. Mmh. Et je pense qu'ils doivent aider chacun enfin, qu'est-ce qu'on serait sans l'art ? Tu parlais des danses des hommes préhistoriques où, ouais. On voit bien que dans l'art
pariétal, en fait,
voilà, c'est ça. Mmh. Les premières choses que font les hommes, c'est dessiner, peindre, avoir une création artistique.
Ce que je trouve très intéressant entre la danse et la psychanalyse, c'est quand on est danseur, on apprend à être un bon élève.
Et vous étiez un très bon élève ?
Je suis un excellent élève.
Vous étiez au premier rang et vos copains ne vous aimaient pas beaucoup au début.
Et on apprend à dépendre de quelqu'un qui va poser son regard sur nous et nous dire quoi faire et nous corriger. Et aujourd'hui, même à 31 ans, j'ai toujours quelqu'un dans un studio qui me dit que je pourrais faire mieux, que ça s'est pas assez bien, qu'il faut que je tende mon pied, que j'envisage les choses différemment. C'est mon travail, c'est comme ça. Aujourd'hui, la danse, il y a un maître et il y a un élève. Et même en tant que danseur étoile, je suis un élève. Avec la psychanalyse, on écoute, il n'y a jamais un conseil en psychanalyse. Le psychanalyste est là pour nous responsabiliser. Et ça, c'est un vrai problème et c'est un vrai travail. Et je trouve ça très intéressant, c'est à quel point on est suffisamment fort de ses propres ressources pour prendre les décisions. Les bonnes décisions pour soi, sans attendre d'écouter les conseils des gens qu'on aime ou des gens que l'on respecte. Et je trouve que c'est très libérateur. C'est quelque chose qui permet en fait de fleurir, quoi, d'éclore.
Mais vous avez peu à peu appris aussi le lâcher prise. Vous racontez ça, je disais que vous n'étiez pas aimé, c'est vous qui le racontez, que Germain Louvet demandait à toute la classe, est-ce que vous aimez Hugo Marchand ? Non, hein, on est d'accord.
Il va être content qu'on en parle à la radio.
Mais oui, c'est dans le livre.
C'est dans le livre, effectivement.
Et vous devenez très amis, et vous l'êtes toujours aujourd'hui, à quelques mois après. Hein, vous avez 31 ans tous les deux, vous êtes étoile à peu près à la même époque, en 2017, lui ça doit être en décembre 2016.
Exactement, ça, et moi en mars 2017.
Voilà, donc vous êtes des frères, puis vous avez été élevés ensemble. Mais vous avez des caractères différents. Et c'est amusant aussi de vous voir en scène, parce que vous n'êtes pas les mêmes danseurs, et tant mieux. Chacun a une personnalité différente. Lui a un côté assez contemporain, garçon d'aujourd'hui. Et vous, vous êtes plus dans une image de prince. Je vous vois plus comme un prince du 19e siècle, du 20e siècle. Je me dis qu'un Helmut Berger, dans ses rôles, peut reconnaître parmi ses enfants Hugo Marchand.
C'est marrant que vous disiez ça.
Oui, je vous vois comme ça.
Mais vous savez, je pense que quelqu'un d'autre me dirait l'opposé.
On vous dit parfois des choses opposées.
Bien sûr, oui. On me dit blanc, puis on me dit noir derrière, la seconde d'après. Et c'était tout ça, la problématique, en fait, de se définir. D'ailleurs, c'est aussi une question, est-ce qu'on a besoin de se définir ? En tant que danseur, on nous pousse à nous définir pour pouvoir définir les rôles et pour pouvoir les raconter. Mais est-ce qu'on a besoin, si on n'est pas artiste, entre guillemets, je ne vais pas dire trop ce mot, mais de se définir autant ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette définition liée au fait que les gens parlent de nous, c'est très particulier. C'est très particulier.
Mais je comprends que vous ayez besoin d'un psychanalyste pour enfin parler de vous sans le regard des autres. On vous regarde tellement et on vous juge tellement et on vous parle tellement de ce qu'on a ressenti. Il faut bien un peu vous réapproprier vous-même.
Ouais, ce que vous un êtes. Petit peu, c'est vrai.
Genre, c'est une autre définition à trouver.
Ouais.
Voilà, je devrais commencer une psychanalyse. À 17h41, on va écouter Jamie XX, Waited All Night Long.
Hesitation. Don't wanna peek too soon. Why don't you let me follow the rhythm of you? Would you wanna feel it? Would you wanna feel it? Would you wanna feel it? Could I be this close to you? Da.
C'était Jamie XX qui reforme le temps d'un titre le trio des XX avec ses comparses Romy et Oliver Sim, Waited All Night.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Avec nous un auteur de théâtre, un metteur en scène, un comédien et un scénographe. Bonjour Simon Falguer.
Bonjour.
Vous arrivez à faire tous ces métiers.
On essaye. Je crois que... par rapport aux cordes que je peux avoir à mon arc dans ce métier, je pense que ma première ligne, c'est d'être auteur. Et ensuite, c'est d'être comédien. Je mettrai metteur en scène un peu après.
Ah oui, il y a une hiérarchie.
Oui, je pense qu'il y a une hiérarchie. Mais je pense que c'est une hiérarchie purement théâtrale. Je crois que les acteurs sont vraiment les rois de notre métier, les acteurs et les actrices. Sans eux, rien n'est possible. Le metteur en scène, bon, il est là pour régir. Mais pour moi, ce n'est pas la place la plus importante.
Le texte d'abord.
Le texte d'abord, oui.
On a déjà vu pas mal de créations de vous, notamment à Avignon. Je me souviens d'un spectacle de 13 heures, je crois, qui s'intitulait « Un nid de cendres ». Vous êtes né en Normandie.
Oui.
Et votre compagnie est basée là-bas.
Oui, ma compagnie est basée là-bas depuis plus de 15 ans maintenant.
Comment se définit la compagnie K de Simon Falguer?
Oh, c'est difficile à dire ça. Je pense qu'on défend un art de troupe. Et je pense qu'on essaie de défendre un art de création, puisque je ne fais que des textes que j'écris, que des créations originales, mais un art de création, je dirais, le plus populaire possible, avec la plus grande exigence possible. Mmh. Et puis je crois que notre théâtre est un théâtre d'aventure. Et je le pense beaucoup par rapport au lieu qu'on est en train de monter, qui est le Moulin de l'Hydre. Ça fait 4 ans qu'on essaie de monter cette aventure en territoire rural.
Et vous avez trouvé un lieu?
On l'a acheté.
Ah bon?
Oui.
Il ressemble à quoi?
C'est une ancienne filature du 19e siècle, avec un moulin adjacent qui était en ruine quand on est arrivé, qu'on a refait entièrement, nous-mêmes. On vit sur place, On est 6 à vivre sur place, enfin 7 puisqu'il y a un enfant, dans la maison qui est en face de cette filature. Et dans cette filature, on a tous nos décors, tous nos costumes qui sont entreposés. Et puis on a un plateau de travail qu'on appelle le laboratoire, qui est à l'étage, et dans lequel moi je répète mes créations. C'est vraiment une aventure folle, qui demande un travail considérable, avec très peu de moyens. C'est comme une aventure un peu pirate, alternative. Et puis c'est une aventure qu'on fait avec les habitants, surtout.
Parmi vos aventures, le cas, il y a Marche avec le cas, point d'exclamation. Du 14 au 19 avril, qu'est-ce que vous allez faire ?
Alors, c'est quelque chose pour moi de très important. C'est peut-être l'événement de l'année pour moi. Parce que justement, c'est un événement qui est entièrement relié à notre aventure du Moulin de l'Hydre. On va rejoindre ce lieu alternatif du Moulin de l'Hydre à une institution, le Centre Dramatique National de Caen, la Comédie de Caen.
Il y a combien de kilomètres entre les deux ?
Il y a 60 kilomètres. On va marcher à pied, on a deux ânes qui nous suivent. Et puis, on va s'arrêter à chaque village, chaque soir. Et dans chaque village, on va jouer notre spectacle « Molière et ses masques ».
Que vous avez écrit ?
Que j'ai écrit, que j'ai mis en scène et que j'ai créé en septembre dernier. Qui est vraiment un spectacle de très tôt sur la vie de Molière. Une œuvre de création, mais sur la vie de Molière. Et une farce, une comédie. Donc on va marcher pendant 6 jours avec les gens et on va faire justement aventure. Parce que moi je crois que le théâtre est toujours une affaire d'aventure. Pendant 6 jours, on va vivre les uns avec les autres, jouer tous les soirs, marcher, manger ensemble, boire ensemble.
Donc les gens peuvent venir même 6 jours ou un jour.
Exactement, on a déjà des gens qui se sont inscrits sur les 6 jours, on ne s'y attendait pas.
Donc ils dormiront avec vous dans des tentes ou chez l'habitant ?
Exactement, et on peut venir sinon seulement une journée, une marche ou deux ou trois, on peut s'inscrire sur le site de la Comédie de Caen. Et moi je vais faire des ateliers d'écriture tout au long de cette marche, donc on va écrire avec les gens sur ce que c'est que la lenteur de la marche, le rapport au temps, le rapport humain qui se crée pendant ces moments-là, et on créera un spectacle avec tous ces écrits à la fin des 6 jours. Donc, être là, de façon alternative, comme on le fait avec le Moulin de l'Hydre, un peu comme des pirates, et de repenser une décentralisation, moi j'y crois beaucoup. Je pense que le théâtre n'est pas du tout un art anachronique. Dans la période actuelle où les écrans ont pris le pouvoir, je pense que le théâtre et le spectacle vivant a vraiment un grand avenir.
C'est vous qui jouez Molière ?
Oh non, certainement pas. Non, j'ai donné le Molière à une comédienne, Anne Duverneuil, qui joue la figure de Molière et qui est une comédienne que j'adore.
Et on retrouve quels autres personnages de la vie de Molière ?
Beaucoup. Ils sont 6 comédiens, 3 acteurs, 3 actrices, musiciens aussi. Et ils jouent une galerie de personnages absolument invraisemblables.
Donc Madeleine Béjart.
On a Molière, on a Madeleine Béjart, on a d'autres comédiens de la troupe. On a aussi les personnages des pièces de Molière. Et surtout les personnages de l'étourdi que j'ai réécrit. Je crois que la plupart des gens pensent d'ailleurs que c'est la langue de Molière ce qui m'amuse beaucoup. Donc Mascarille, Anselme, etc. Et puis après, on a tous les personnages historiques. Un personnage très important qui est le prince de Conti, qui avait été un grand protecteur de Molière au démarrage. Et puis Louis XIV, mais aussi on retourne un moment en arrière avec Richelieu.
C'est très ambitieux.
C'est assez ambitieux et ça ne dure qu'une heure et quart.
Et comment vous faites ?
Ben, c'est une tornade. C'est une tornade sur un tréteau.
Molière et ses masques, le Simon Falguière, le patron de la compagnie K, marche avec le K, c'est du 14 au 19 avril. Vous prenez contact avec la Comédie de Caen pour vous inscrire et vivre une aventure théâtrale un petit peu hors du commun, même si la décentralisation date, Simon.
Oui, la décentralisation date d'après-guerre, mais je crois que cette aventure va être absolument hors du commun.
Simon Falguière, que vous découvrez, Hugo Marchand, oui, mais Hugo Marchand, vous découvrez Simon Falguière et son envie, finalement, de revenir comme à l'après-guerre, à quelque chose d'autre. Vous avez envie d'aller dans les villages, dans la ruralité, lui aussi, il est en train de le faire.
Ouais, c'est fascinant.
Et vous étiez très intéressé.
Ouais, c'est fascinant parce qu'en fait, ça se construit presque en opposition à toutes ces découvertes technologiques de nos jours, de l'intelligence artificielle, de toutes ces choses-là. Et en fait, on revient à des choses concrètes, de la terre, à des vrais gens qu'on va rencontrer, au milieu rural, à amener la culture un peu partout, à la diffuser, à être dans le concret, dans des vraies discussions avec des gens qu'on regarde dans les yeux. Et ça me fascine.
Est-ce que ça vous manque à l'opéra ?
Alors à l'opéra, on a la fosse d'orchestre qui nous sépare des gens. Et puis on a l'entrée des artistes qui nous sépare du monde. Donc, et c'est ça que j'essaie de faire avec l'association Hugo Marchand pour la danse, c'est vraiment de rendre le danseur accessible et de voir qu'en fait, on est des gens tout à fait normaux et que la danse, elle est pour tous et qu'on peut la partager avec tout le monde.
Toute votre génération dit ça, c'est intéressant.
Ben parce que je pense que c'est ce qui nous a manqué le plus quand on était peut-être un peu plus jeune.
Vous étiez enfermé dans cette école.
On n'avait peut-être pas suffisamment d'ouverture et de modèles qui étaient ouverts sur le monde et qu'on avait l'impression qu'on allait juste rentrer dans une maison fermée et qu'on allait y rester toute notre carrière.
Oui, vous disiez que finalement, apprendre un rôle, c'était déjà apprendre quelque chose et vivre en dehors de la compagnie des enfants, puis des adolescents, etc. C'était un enseignement.
C'est un enseignement. On a besoin de vivre des vies d'hommes et de femmes en dehors du ballet pour pouvoir interpréter tous ces personnages et comprendre ses émotions. Quand on est danseur, on est acteur, et pour pouvoir vivre et partager ses émotions, il faut les avoir entreaperçues un petit peu dans nos vies. Sinon, c'est du fantasme. Et je pense qu'on touche moins les gens.
C'est l'heure des conseils culturels dans le Grand Atelier. Et Charlotte Montpeza, est-ce que vous avez envie de nous emmener quelque part? Je vous laisse aller une minute.
Une minute, très bien. Alors, on part au Louvre. En fait, il y a une exposition absolument magnifique, complètement planquée derrière le pavillon de Denon, etc., qui est sur les primitifs italiens, Cimabue et les primitifs italiens. Et c'est tout petit hein, comme expo, mais c'est passionnant parce que c'est un moment charnière de l'art. C'est un moment où l'art qui était 100% religieux, vraiment par essence totalement religieux, tout d'un coup, fait une place à l'humain, à l'homme. Et on voit une des toiles de Cimabue, qui est une immense Vierge à l'enfant, et qui a l'air comme ça encore très hiératique, très, très orientale dans sa facture. Et il y a un tout petit détail, qui est que l'enfant tient un rouleau de papier dans la main, l'enfant Jésus, hein, tient un rouleau de papier, et on voit que le rouleau de papier est légèrement déformé par la main de l'enfant. Et ce tout petit signe dans cette immense toile, c'est le début de l'humanisme dans l'art. Et c'est totalement magnifique. Et Cimabue, c'est un peu le papa artistique de Giotto. Il y a des toiles de Giotto derrière qui sont absolument démentes. Et donc, allez-y.
Une expo donc, sur les origines de la peinture italienne au Louvre, Cimabue, c'est jusqu'au 12 mai. Est-ce que monsieur Hugo Marchand, danseur étoile, veut nous conseiller quelque chose? Peut-être nous faire découvrir un peintre?
Alors, moi, j'ai découvert un peintre, effectivement, mais c'est très récent, donc je ne vais pas pouvoir en parler pendant des heures, mais c'est un jeune peintre qui s'appelle Victor Pusperchaud, qui a un atelier à la Porte de la Chapelle à Paris.
Et vous êtes allé dans l'atelier?
Je suis allé rencontrer cet artiste, je suis allé voir son atelier, et j'ai vraiment été très touché par sa manière de percevoir le monde, sa manière de percevoir la nature et le végétal dans une ville aussi urbanisée que Paris, et de voir que des petits défauts, que des choses qui pourraient être de la mauvaise herbe qui pousse sur du béton, en fait, ça a une poésie complètement dingue quand c'est travaillé avec son imaginaire et ses couleurs à lui. Donc voilà, je trouve que c'était quelqu'un qui a une poésie particulière. Et puis, juste pour compléter un peu différemment, il y a cette série absolument dingue sur Netflix qui s'appelle Adolescence, que je conseille à tous de regarder puisqu'elle est bouleversante, filmée en plan séquence, 4 épisodes d'une heure, qui parle d'un sujet de société que je ne connaissais pas et que j'ai découvert qui s'appelle l'incel et qui, je pense, va en intéresser plus d'un.
L'adolescence, elle est au cœur aussi de votre livre Danser, Hugo Marchand, notamment les interrogations sexuelles. Vous arrivez à l'école de l'Opéra de Paris, vous avez 13 ans, vous arrivez de Nantes, et tout le monde se dit « t'es gay, toi, t'es gay », et vous appelez vos parents, vous appelez votre mère. « Je sais pas trop ce que je suis, mais si j'étais gay, maman, est-ce que tu m'aimerais encore ?»
Vous voulez que je réponde à ça?
Est-ce que vous étiez un peu tout seul par rapport à ça? Est-ce qu'on manque d'encadrement des enfants là-dessus?
Non, je pense pas qu'on est seul par rapport à ça, parce que de toute façon, on parlait de définition, de qui on est. On peut être que seul face à ça. On peut échanger, on peut parler, on peut ouvrir le sujet, mais c'est des choses qu'on doit découvrir, qu'on doit ressentir et qu'il faut accepter avec le temps.
Mais donc, je sais que vous parlez régulièrement à des enfants ou des adolescents qui sont un peu perdus par rapport à ça, et vous prenez du temps pour eux.
Bien sûr, je prends du temps pour les plus jeunes parce que c'est très touchant en fait d'avoir quelqu'un qui se confie, qui se lit. Moi, ça m'arrive encore très régulièrement d'avoir des jeunes garçons qui m'écrivent sur Instagram en me disant voilà, ou qui me voient dans la vie en me disant je voudrais être danseur, mais mes parents m'autorisent pas à être danseur. Je rêve de prendre un cours de danse, je rêve d'être danseur sur une scène à l'Opéra de Paris. Et puis en fait, mes parents, et c'est pas forcément des gens qui viennent de loin, hein, c'est pas des gens qui habitent au fin fond de la campagne.
Hein, et pourquoi on leur dit non, par peur de l'homosexualité par exemple,
avec une éducation plus, hein, c'est pas forcément, c'est vraiment une manière de percevoir le monde, de percevoir la danse et le milieu de la danse. Le milieu de la danse, c'est un milieu où il y a beaucoup de fantasmes, où on imagine les pires atrocités. Il y a eu des films qui ont traité de choses complètement fausses. Et en fait, j'ai envie de normaliser ce rapport aujourd'hui. La danse, c'est un milieu comme un autre, un milieu élitiste. Mais je parle de la danse à l'Opéra de Paris, élitiste. Mais,
et concurrentiel.
Et concurrentiel, mais comme tous les milieux élitistes. Pas plus, pas moins.
il élève la voix, là, Hugo Marchand. Qui est Georges Balanchine pour vous, ce danseur et chorégraphe qui a transformé le ballet classique au XXe siècle?
C'est un grand créateur et c'est quelqu'un qui a mis la musique à voir. On voit la musique quand on voit du Balanchine. C'est quelqu'un qui n'avait que l'intérêt de rendre compréhensible une partition de musique complexe à travers le mouvement. Et ça, c'est super chouette en tant que danseur.
Parce vous
que
le dansez, lui. Hein.
On aime danser Balanchine pour ces raisons-là. D'ailleurs, il a fait quelques ballets narratifs qui ne sont pas ses plus beaux ballets. Les histoires qu'il raconte ne sont pas forcément passionnantes. Mais ses abstractions et sa danse classique, pour mettre en lumière la musique, ça, c'est du bac. C'est des maths. Oui. C'est absolument incroyable.
Je vous propose de l'écouter, Balanchine, interviewé par Georges Pommier.
La danse, Georges Balanchine, qu'est-ce que c'est pour vous?
C'est la danse.
C'est votre seule définition?
Oui, seule définition. La danse, c'est la danse. Et danse, c'est... Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de paroles. On ne peut pas expliquer par... écrire quelque chose. Naturellement, les écrivains qui crient parce qu'ils ne peuvent pas danser. Oui.
Vous ne voulez pas parler de la danse?
Je ne voulais pas. Peut pas.
C'est une émotion, la danse.
C'est pas émotion, c'est motion. C'est mouvement. Alors il faut regarder. C'est les yeux. Il faut voir et surtout c'est la musique.
Voilà, je me doutais que ça vous ferait plaisir d'entendre que la danse n'est pas une émotion, mais une motion, un mouvement. Merci d'avoir été des nôtres dans le Grand Atelier.
Merci beaucoup, Vincent.
Jusqu'au 18 avril, on vous applaudit dans Appartement de Matzek.
C'est ouais, fascinante pièce. Hein.
Créé il y a 25 ans à l'Opéra de Paris, j'y étais, j'avais cette chance, et on y dansait aux éditions Artaud. Vous serez aussi au Festival d'Avignon, en tout cas à Avignon.
Je ne serai pas au Festival d'Avignon, mais juste derrière, en collaboration avec un grand artiste, Jean-Michel Autoniel, qui a la ville d'Avignon pendant plusieurs mois, et on va danser dans le Palais des Papes pour deux soirées début août, et ça va être magnifique.
Et pour toutes les représentations de votre association Hugo Marchand pour la danse, on va sur la page du Grand Atelier sur le site de franceinter.fr. Merci Madame la psychanalyste Charlotte Montpezat.
Merci Vincent Josse.
Lucie Lemarchand a réalisé cette émission. Louise Tempero, Virginie Rouzic, Betty Algret m'ont aidé à la préparer. Valentine Chedebois a programmé la musique. Il y avait cet après-midi à la technique Benjamin Wagon. Les infos sur l'émission, vous les trouvez sur la page Facebook du Grand Atelier. Samedi 17h, c'est la balade de Jeanne Chéral. Et dimanche, même heure, rediffusion du Grand Atelier de Jacques Gamblin.